سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Par la grâce d'Allah, Azza wa Jal, nous essayons de continuer un petit peu pendant les vacances les programmes sur l'étude des noms d'Allah. Et on se souvient du hadith qu'on avait commencé à développer la dernière fois. Man arada an ya'lama ma lahu 'inda Allah falyanzur ma lillahi 'inda. Si le croyant veut savoir quelle place il occupe auprès d'Allah, il doit avant tout réfléchir et observer quelle place il donne à son Seigneur dans sa vie. Et on avait développé quelques points en rapport avec quand a'malul qulub, les actions du cœur, les actions intérieures, des sifat, des qualités propres, intrinsèques aux croyants, qui font partie de l'ossature de son iman, que nous devons absolument, absolument retrouver dans notre relation avec Allah. Si on ne les retrouve pas, ça veut dire que c'est une relation qui est vide. C'est une relation qui est purement traditionnelle, c'est mécanique, c'est un héritage culturel, c'est, même si la bonne action elle est présente, mais je veux dire que c'est une action qui n'aura pas de ruh, qui n'aura pas de lumière, et on a besoin, c'est la priorité, c'est ce qui nous permet d'être sincères, c'est ce qui nous permet d'être ferme, istiqama. Vous voyez, on a vécu des cas de Dhul-Hijjah, j'espère pour tout le monde, avec, mashallah, un engagement spirituel important, peut-être aussi important que durant le mois de Ramadan. Pour la plupart, on a essayé de jeûner, de faire la prière de la nuit, de faire le dhikrullah, le takbir, tashriq. On s'est contrôlé, contrôle le regard, contrôle des paroles, bref. On a essayé de se rapprocher d'Allah. Maintenant, comment un signe que ces actions venaient du cœur et que ça a été accepté par Allah, c'est qu'Allah te donne tawfiq de continuer ces bonnes actions après. Et c'est ça l'objectif. À partir du moment où j'ai les qualités intérieures, a'malul qulub, je vais être sincère, j'aurai la fermeté de l'istiqama, et quand je vais créer ce lien avec Allah par le biais d'une salat, d'une lecture de Coran, de dhikrullah, je vais ressentir l'amour d'Allah dans mon cœur. Il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de plus gratifiant pour un croyant que de ressentir l'amour d'Allah quand il est en ibad. C'est ce qu'on appelle trouver la halawatul, la douceur de la foi, halawatul iman. Et c'est lorsque on s'habitue, on prend cette habitude de placer le cœur dans les actions. Vous savez, je fais une parenthèse et on revient sur ce sujet. Il y a un doua que je trouve magnifique, qu'on peut faire en français, en arabe, quelle que soit la langue. Je pense qu'en français, c'est pas mal non plus. C'est un conseil. C'est pas un hadith, je dis tout de suite. C'est pas un doua masnoun, mais on va dire que ça découle de beaucoup de doua. Je suggère que je propose comme doua de demander à Allah régulièrement, ya Allah, remplis mon cœur de ta'zimullah, de ta grandeur. Remplis mon cœur de ton amour, de hubbullah. Remplis mon cœur de al-haya min Allah, de la honte de te désobéir. Oh Allah, remplis mon cœur d'amour pour le prophète alayhi salat wa salam. Remplis mon cœur de khashiyatullah, de crainte d'Allah. Remplis mon cœur de taqwa. C'est de tout ça. C'est ça que nous avons besoin. Ce sont ces qualités-là qui nous manquent cruellement et que nous devons travailler. Alors justement, on avait cité quelques points la dernière fois. On ne va pas les rappeler parce que sinon on va prendre du temps. C'est à peu près le résumé du doigt que je viens de faire. Ce sont les qualités qu'on avait citées la dernière fois. Ce que le croyant doit essayer de développer également dans sa relation avec Allah, le mu'allif, l'auteur dit « وَالْوُقُوفُ عِنْدَ أَحْكَامِهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَنَفْسٍ مُطْمَئِنَّ » Il me semble que c'était le dernier point qu'on avait abordé, qu'avec ces qualités, respecter les ordres d'Allah, respecter les interdits, mais ça doit venir du cœur. Quand on s'éloigne d'un haram, ce n'est pas une frustration. Et quand on accomplit une bonne action, ça ne doit pas être une contrainte. On le fait de gaieté de cœur, avec conviction que c'est la recherche du contentement d'Allah. Et c'est ce que l'auteur dit, nafsun mutma'inna. Le cœur est apaisé et le cœur est convaincu que c'est ça le droit chemin. Que je suis en train de poser des pierres pour poser mes pieds sur le chemin du sirat al-mustaqim. Hada. Ça, on avait dit. Ensuite, wamura, on va dire en français pour aller plus vite, et le croyant, enfin, les qualités du croyant, c'est également
être capable de voir la grande sagesse d'Allah dans toutes ses décisions. Dans tout ce qui t'arrive de bien, tu remercies Allah, mais quand il arrive des situations un peu difficiles, des situations d'épreuve, réalise et prends conscience que il y a une hikmah, il y a une sagesse divine dans ces décisions qui viennent d'Allah Rabbul Izzah. وَلُزُومُ ذِكْرِهِ. Parmi les qualités qui déterminent ton niveau de iman et la qualité de ta relation avec Allah, c'est le fait de faire le dhikrullah de façon permanente. Je pense que dans cette décade, on essayait de lire le maximum de fois le takbir tashriq. Ben, gardons cette habitude. Vous savez, il n'y a pas de mal à continuer de lire le takbir tashriq tout le temps, sans en faire une innovation, bien sûr. Hein. Mais je veux dire, le dhikrullah de façon générale, autant que possible. N'importe quel moment de libre, on essaie et on demande à Allah Tawfiq, Ya Allah, accepte-moi pour faire ton dhikr tout le temps. Et c'est là qu'Allah va mettre dans ton cœur de faire le dhikr. Il y a des fois, on peut rester là, dans un embouteillage, 15-20 minutes, à regarder de le vide, à ne penser à rien du tout, ou à écouter des bêtises à la radio. D'accord? Mais quand Allah te donne Tawfiq, ben, il met de ton cœur l'envie de lire un peu le Coran ou de faire le dhikrullah. Parmi les adhkars qu'on doit faire vraiment dans une journée, et qu'Allah me donne tawfiq à moi de le faire avec vous, comme nous devons essayer de nous améliorer hein, dans ce genre de amal, c'est le fameux, ce qu'on appelle nous le quatrième kalimah. C'est une façon, hein, c'est ce qu'on dit aux enfants, le kalimah de tawhid, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku, wa lahul hamdu. Au minimum 100 fois par jour. Et si possible le matin. Ça fait partie des adhkars de protection. Au même titre que nous lisons les mu'awidhat. Al-Ikhlas, Al-Falaq al-Nas. Qu'on lit Ayatul Kursi. C'est les Akhir al-Baqara. Ce sont des versets qui nous protègent contre toute chose mauvaise. La lecture de ce qu'on vient de dire, le kalimatul tawhid, 100 fois par jour, c'est une protection pour le croyant. Et si on le lit le matin, on a une garantie de protection jusqu'au soir. D'accord? Donc ça fait partie des adhkars. Parmi les adhkars qu'on doit essayer de lire autant que possible, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. C'est un verset du Coran, d'accord? Un dhikr. Pensée d'Allah, qui nous apporte deux choses, le pardon divin et l'aide d'Allah dans toutes les situations difficiles. Parmi les adhkars qui sont recommandés, toutes les adhkars sont recommandés bien sûr, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Qui me cite une des vertus de ce dhikr qu'on entend souvent dans les jalsa de Khatm al-Bukhari? Ah, Kalima. Ah non, vous l'avez entendu combien de fois? Voilà l'ancien Kalimatani, Habibatani, Thaqilatani fil, Mizan, Khafifatani al lisan. Deux paroles qui sont faciles, oui, faciles à prononcer, qui plaisent à Allah et qui pèseront lourd dans la balance. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Des adhkars à lire au quotidien. Et bien sûr, parmi les adhkars, As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, de toutes les façons possibles. Donc, ça, c'est une preuve également que la réalité de la foi est dans ton cœur. Mais bien sûr, encore une fois, les adhkars, on doit les faire en pleine conscience. Ça veut dire quoi faire le dhikrullah en pleine conscience? C'est par opposition au rafla, à l'insouciance. Il y a une personne, et je me rappelle, je donne cet exemple tout le temps, j'avais un professeur qui nous disait qu'il y a des gens qui disent astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah comme ça. Il dit que هذا الاستغفار يحتاج الى استغفار. J'ai déjà dit ça moi 7 fois, je sais, je me répète. C'est pas que je me répète, c'est que je répète la même chose, c'est important. Pour que moi aussi je prenne conscience. Dit, le fait de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sans réaliser la portée de cette parole, sans prendre conscience que ce que tu es en train de dire, c'est « Oh Allah, pardon, Ya Rab, pardonne-moi mes péchés ». C'est quand même « kalimatul i'tiraf ». C'est censé être une parole de le fait de reconnaître ses péchés, ça doit être rempli d'humilité, de honte, d'avoir désobéi à Allah et d'espoir qu'Allah te pardonne. C'est tout ça qui habite notre cœur normalement quand on demande pardon à Allah. Mais un de nos prophètes disait donc ça, dit quand quelqu'un le dit sans y réfléchir, c'est déjà presque comme un péché. Parce que c'est un manque de respect envers Allah. Et ce istighfar-là, il faut un istighfar pour ça. Bon, c'était un peu de mubalara, c'était un peu d'exagération. Mais pour nous faire prendre conscience que, justement, faire le dhikrullah, mais en pleine conscience. D'accord? Qu'Allah nous donne la possibilité de... C'est pas quelque chose de simple, hein. C'est pas quelque chose d'aisé, ça. C'est comme quand on dit, oui, il faut être concentré dans la salah. On le dit. Mais après, tu commences, alhamdulillah, rabbil alamin, tu es sérieux, là, tu dis, je vais y aller, là, j'écoute bien. Et avant la fin de l'Fatiha, tu es déjà, tu m'as oublié de la viande tel bougla. Je dois récupérer, je dois dire, même pour les bonnes actions, Allah me pardonne. Moi, ça m'arrive dans, parfois dans la salle, en période d'examen, hein, j'ai oublié de corriger telle copie, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis tu dis, non, on se ressaisit. Nous sommes humains. Nous sommes habités par nos occupations, par ce que nous faisons. C'est la nature humaine, ça. Et demande, tawfiq, Allah, donne-moi la concentration dans la salle. Ya Rab, donne-moi la concentration dans mes adhkar. C'est là que nous trouverons la douceur de la foi et la réalité du iman. Parmi les qualités intrinsèques du croyant, c'est toujours reconnaître les bienfaits d'Allah. Reconnaître les bienfaits d'Allah. Un croyant qui est reconnaissant, qui fait toujours preuve de gratitude de son cœur, c'est une preuve que il y a Allah dans son cœur. C'est la façon que je le dis. Hein. Allah a une place dans ton cœur réellement. Parce que les bienfaits, c'est en rapport avec le matériel en général, avec la famille, ce que tu as. Et si tu as un cœur insouciant, tu finis obligatoirement, c'est normal d'oublier que ça vient d'Allah. Mais si tu as un cœur qui pense à Allah tout le temps, ben assurément, à chaque bienfait, tu vas reconnaître que ça vient d'Allah, tu remercies Allah Azza wa Jal. Donc demandons à Allah de nous accorder un cœur rempli de reconnaissance. Naam. Quelle est la meilleure façon pour se montrer reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, qui propose une solution? Une solution concrète, hein? Hein? Ya Abdurrahman. Merci. Autre proposition? Regardez les personnes qui sont, voilà, qui ont moins de bienfaits que nous. Il y a des fois où on fait preuve d'ingratitude parce que ben on baigne dans certains bienfaits et c'est devenu pour nous quelque chose de normal, de naturel. Mais jette un œil sur les personnes qui sont dans des difficultés et tu vas te rendre compte que ton quotidien que tu trouves lassant, à un moment donné, c'est un ni'ma. Et parfois, il y a des gens, il y a des familles, c'est normal. Hein. Ils disent que ouais, c'est les vacances, j'ai pas les moyens, je peux pas voyager. Ouais, mon cœur fait mal, je suis triste, mes voisins voyagent, mes cousins voyagent, eux ils ont les moyens, comment ça se fait que... Je pense que ça peut traverser notre esprit. Mais n'oublie pas que après la salat d'Isha, quand tu rentres chez toi, alhamdoulilah, tu as un toit. Tu as de l'eau courante, tu as à manger, tu as à boire, tu as une famille, tu es en bonne santé et toutes les personnes qui sont dans ta maison sont en bonne santé. Juste pour ça, remercie Allah, juste pour ça. Et réalise que ça vient d'Allah. Donc ne regarde pas ceux qui ont plus de bienfaits. Regarde ce qu'Allah t'a accordé. On continue, on avance. Wa husni dhanni billahi, avoir une pensée positive d'Allah en toute situation, toute circonstance. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait de reconnaître les bienfaits, sur également le fait de voir la sagesse d'Allah de ses décisions. Ça rejoint un peu ça. Avoir une pensée positive d'Allah. Ne jamais penser qu'Allah va me punir, me châtier, qu'Allah a mal agi, astaghfirullah envers moi, il m'a privé de telle chose. Toujours avoir une pensée. Et pour avoir cette pensée positive à propos d'Allah, ben, la solution, c'est de connaître Allah. Plus tu connais Allah, et avec ça, tu connais l'histoire des Anbiya, alayhi mussalat wa salam. Le fait de connaître Allah, c'est ta spiritualité. Le fait de connaître l'histoire des prophètes, c'est le modèle, l'exemple. Et tu te rendras compte que les preuves que tu vis, les Anbiya ont vécu 10 fois plus. Et encore 10 fois plus, c'est rien. Beaucoup plus que ça. Et si Allah a éprouvé ses envoyés, ça veut bien dire que c'est de cette façon qu'Allah montre qu'il aime la personne. Ça te permet de relativiser et de comprendre, de donner un sens aux épreuves qui t'arrivent et d'avoir toujours cette pensée positive en Allah. Et ça, c'est important quand on fait doua, quand on fait les invocations. Il faut surtout pas, quand, par exemple, si c'est une demande qui concerne une épreuve qui est lourde, un problème de santé, ou un problème de santé pour ta famille, un membre de la famille qui est malade ou autre chose, et que tu demandes doua, ya Rab, accorde la santé. Il y a des fois où tu peux demander doua pendant des années et des années. Ça peut être également cette femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui est mariée depuis 12 ans et qui tous les jours, après chaque salat, demande « Ya Rab, accorde-moi un enfant. Ya Allah, accorde-moi un enfant. » Et que après 10 ans, 12 ans, il n'y a toujours pas d'acceptation apparente de son doua. Cette personne et tous ceux qui sont éprouvés de différentes façons doivent garder dans leur cœur husnul dhanni billah, qu'Allah entend mes invocations, Allah connaît ma douleur, Allah connaît ma peine, parce que c'est lui qui a créé cette épreuve, et Allah attend de moi que j'oriente mon cœur vers lui comme je le fais. Et quand Allah aura décidé de m'accorder cet enfant, il me l'accordera, ou de m'accorder la santé, il le fera. Et si Allah a décidé de ne pas m'accorder ce que je lui demande, c'est que Allah me réserve quelque chose de meilleur dans l'au-delà, de l'akhira. Et dans l'akhira, le hadith stipule que la personne la plus éprouvée de ce dunya sera plongée une seconde dans, vous connaissez le hadith, de le jannah. Et on demandera, c'est vraiment l'homme qui a été le plus opprimé, les plus grandes souffrances de l'histoire de l'humanité. Et une seconde dans le Jannah, Allah lui demandera, est-ce que tu te souviens de tes problèmes de ce dunya? Il dit, ya Rab, rien du tout. C'est-à-dire que le Jannah, le paradis, c'est bien sûr la récompense suprême, mais ça va effacer totalement tout ce que tu as pu vivre. Et plus tu es dans la difficulté, dans la souffrance, dans la maladie, dans les épreuves, Allah augmente ton grade, oui ou non? Chaque moment d'épreuve, c'est des bonnes actions greffées, des hasanat, ce sont des péchés effacés, mais c'est également un grade qui augmente auprès d'Allah, Azza wa Jal. Mais tout ça, ikhwani akhawati fillah, ça nécessite un travail sur soi. Ça ne va pas venir tout seul, du jour au lendemain. Et à mon humble avis, il doit y avoir un mélange entre les invocations pour demander à Allah de nous accorder ces réalités, les efforts en faisant de bonnes œuvres, le dhikrullah en permanence pour fortifier le cœur et apprendre le din, connaître le tafsir, étudier les hadiths. Et on avait dit tout à l'heure, puis j'ai oublié de compléter, qu'on a dit que on avait complété l'histoire des prophètes, c'est notre modèle, mais c'est en étudiant la sirat, les aqidah, aqaid, le tawhid, le hadith, le tafsir et ainsi de suite, c'est là que tu arrives à augmenter ton iman et à développer ses qualités, ses réalités, qu'Allah nous les accorde. Et on conclut, يقول المؤلف مع العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرمه الله عليه. Et avec toutes ces qualités, bien sûr, être ferme et entièrement engagé dans les bonnes œuvres et entièrement engagé à délaisser le haram. Parce que quand on cite les qualités intérieures, là, il peut y avoir des fois un piège de shaytan. Je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. Shaitan peut te faire croire que le plus important, c'est les a'mal al-qulub. C'est aimer Allah. Moi, j'aime mon Seigneur. Dieu est dans mon cœur. Ouais, mais tu pries pas. Dieu est dans mon cœur, je t'ai dit. La sœur, elle, tu dis, tu voudrais peut-être te couvrir de façon un peu plus pudique. Hein, d'accord? Prendre un peu le modèle des épouses, du Prophète salam, des sahabiyya. Elle dit que oui, mais c'est pas ça le plus important. C'est aimer Dieu. Voilà. Là, c'est le pied de Shaitan. Et wallah musta'an, beaucoup de gens sont tombés dans ce piège de shaitan. Et je ne vais pas citer le nom des groupes parce que ça passe pas et c'est pas de mes habitudes, mais il y a des groupes comme ça qui vous amènent plus vers le développement spirituel intérieur en plaçant, on va dire, en second degré, d'accord, moindre priorité au a'mal le jawarih. Non, les deux. La base, l'ossature, le soc, c'est tout ce qu'on a cité, amal al-qulub, et c'est de cet amour et cette grandeur, cette crainte d'Allah qui va constituer la force de tes bonnes actions. Et pareil, il y a des personnes qui ont l'amour d'Allah dans le cœur, qui accomplissent de bonnes actions, donc pour l'instant c'est parfait, mais face au haram, il n'arrive pas à dire non. Exposé au moindre péché, il chute, il trébuche, il sombre, et il se laisse entraîner dans les filets, dans le piège de Shaitan. Je ne vais pas dire filet, en période de Qurban, on va penser à autre chose, non. Dans les pièges de Shaitan. Et ça, c'est, le ulama appelle ça, c'est tanaqud. C'est une incohérence spirituelle. C'est une incohérence dans ta foi. Tu ne peux pas être au premier rang et être toujours le premier dans le monde, dans l'étude du Coran, dans le dhikr, dans le hifz du Coran, dans les a'mal et ainsi de suite, mais également être le premier dans l'intérêt, dans l'adultère, na'oud billah, dans le mensonge, dans la calomnie, dans la médisance. C'est pas possible. C'est incohérent. La religion, c'est quelque chose d'équilibré. Si vraiment tu aimes Allah, tu l'obéis. Si vraiment tu aimes Allah, tu ne le désobéis pas. Autrement, c'est qu'il manque quelque chose dans le sature de ta foi. Hada. Je conclue les 11 ou 12 ou 13 qualités intérieures qu'on a citées par une citation de Ali ibn Abi Talib. Et je dis bien une citation de Ali ibn Abi Talib et je ne dis pas un hadith. Il y a une différence entre un hadith et la citation d'un sahaba. Je fais une parenthèse, on est un peu, c'est un peu technique, c'est dans le mustalah al-hadith. La citation d'un sahaba, ça s'appelle un mawquf. Un mawquf. D'accord? Après, on a des mawqufs, lahu hukm al-raf'i. On a des mawquf qui découlent directement d'un hadith. On dit que le sahaba ne peut pas avoir exprimé cet avis de lui-même. C'est forcément issu d'une écoute par rapport au discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, après, c'est très technique. Là, ça monte au degré des hadiths. Le mawquf, ce qu'on va citer, c'est qu'un sahaba commente un hadith, ou donne son avis. Et le mawquf, je vous le dis juste pour qu'on prenne conscience de la solidité de nos sources. Et ça, pour moi, c'est important. Le din, c'est sacré. Ça vient d'Allah. C'est mabni ala al-Qur'an wa sunna. On prend de la parole d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salat wa salam. Nos sources, cette religion, elle est pure. Et elle est préservée jusqu'au Qiyamah parce qu'elle est pure. Il n'y a rien, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit à ce dîn, ni en enlever, même pas la tête d'une épingle de ce dîn. Pourquoi je vous parle du mawquf, pourquoi c'est important? Pour qu'on voit la solidité de nos sources. Quand on dit que le prophète sallam a dit, c'est mashallah, c'est de l'or pur. Et ce qu'un sahaba a dit, on ne le considérera pas au même niveau qu'un hadith. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans notre pratique, malheureusement, beaucoup de gens mettent certaines actions en pratique uniquement parce que tel bouzrouk a dit. Non, grand Malana l'a dit, il faut faire ça. Il a dit, il faut faire, mais c'est pas quelque chose de sacré. Man ahabba an ya'lama kayfa manzilatuhu 'inda Allah falyanzur kayfa manzilatu Allah 'inda. Il reprend le hadith, ça me dit que celui qui veut savoir quelle place il occupe maintenant à l'instant T auprès d'Allah, ben qu'il se pose la question quelle est la place d'Allah dans ma vie, dans mon cœur. Et là il donne un détail que je trouve sublime mais qui en même temps nous fait froid dans le dos parce que ça nous fait prendre conscience de la réalité de notre iman. Yaqul fa inna kullaman. Alors, je dis en français pour aller plus vite. Chacun d'entre vous, chaque personne à qui est donné le choix, Bayna Amrain, quand vous êtes dans une situation où vous avez la possibilité de prendre un chemin ou un autre, Amru Dunya ou Amru Al-Akhira, soit tu choisis le Dunya, soit tu choisis le Akhira, Fakhtar Amru Al-Akhira, Ala Dunya, Fadhalika Alladhi Yuhibbu Allah. Cette personne qui a le choix entre le dunya, les plaisirs de ce monde, et la recherche du contentement d'Allah, si à chaque fois qu'il y a le choix entre ce que ton nafs te dit ou l'obéissance d'Allah, et que cette personne choisit l'obéissance d'Allah, c'est une preuve très claire que cette personne aime Allah. Et ça par opposition à ceux qui disent que le plus important c'est aimer Dieu. Mais tu aimes Allah mais tu ne pries pas. Tu aimes Allah mais tu ne viens pas à la salat ma'al mu'min, ma'al jama'a. Tu aimes Allah mais tu ne te couvres pas correctement selon ce que nous avons enseigné concernant la pudeur de l'homme, la pudeur de la femme. Il n'y a pas d'amour d'Allah dans ton cœur. ne te persuade pas que tu aimes Allah au-dessus de tout si tu n'es pas prêt à respecter ses ordres et ses interdits. C'est ce que Ali ibn Abi Talib dit. Si quand tu es dans cette situation de ce carrefour de ta vie et que tu choisis l'ordre d'Allah à chaque moment, et ça, ça nous arrive au quotidien. Je vous donne un exemple, c'est basique, d'accord ? Je cite toujours cet exemple, le contrôle du regard. Tu as la possibilité de regarder ou de te contrôler. Le nafs te dit quoi, Sajid ? Le nafs te dit quoi ? Ben oui, le nafs te dit regarde. Et puis si tu as un petit nafs qui a un peu de connaissance religieuse, il va te dire le premier regard, il parle de lui. Donc regarde et après tu réfléchiras. A'oudhou billah, piège de shaitan. Donc le nafs te dit regarde. Et ton iman te dit protège ton regard pour Allah. Après, ça peut être des situations beaucoup plus complexes, d'accord ? Tu as un choix concernant un investissement financier, ton nafs te dit emprunte avec la banque, prends l'intérêt et ça te permet d'avoir un capital de 200 000 euros tout de suite. Tu développes ton entreprise ou tu achètes ta voiture, tu achètes ton appartement, enfin bref. Et ton iman te dit non, ne mets pas le pied dans le haram, dans le riba. Ben, après, ça peut être également tes parents ont besoin de toi, parents âgés, qui te demandent de venir les voir, je ne sais pas moi, pour rend un service, amène ça, dépose ça, ça. Les parents, ils ont toujours des demandes, d'accord ? Et ton nafs te dit non. Là, donne. Là, c'est l'heure d'aller jouer au foot avec les amis ou alors d'aller faire. Bref, tout sauf obéir aux parents. Et ton iman te dit que c'est de l'obéissance de ton papa et ta maman qui a le khayr. C'est tout ça les situations. C'est pas des situations forcément exceptionnelles. C'est pas une décision de ta vie, non. C'est chaque fois que tu as le choix entre le bien et le mal. Quand tu choisis l'obéissance d'Allah, c'est la preuve flagrante que tu aimes Allah. Et c'est la preuve flagrante que tu as donc une place auprès d'Allah. Parce que tu choisis toujours ton Seigneur avant ton nafs. Mais celui qui choisit le dunya, فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَنْزِلَةَ لِلَّهِ عِنْدَ. Celui qui choisit son nafs et le dunya, c'est une preuve claire, malheureusement claire, que Allah n'occupe aucune place dans ton cœur. Ça, c'est révélateur. C'est quand ton cœur fait un choix qu'on voit vraiment ce que contient ton cœur. On va s'arrêter à l'inchal. Si on est en train de fermer la masjid, on ne va pas être plus long. La prochaine fois, je ne sais pas si c'est mardi prochain ou après, on va développer le verset « Man khashiya ar-Rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib » le cœur pur pour comprendre qu'est-ce qu'Allah attend réellement de nous en termes de soumission. Qu'Allah Rabbul Izzah accepte notre décat de l'Hijja, qu'Allah accepte le Udhiyah qui a été fait directement de nos mains à la réunion ou alors par procuration pour ceux qui ne pouvaient pas le faire après le Udhiyah. Demande à Allah, Ya Rab, accorde-moi pour chaque poil de l'animal un hasana, comme tu l'as promis. Ya Allah, que ce sacrifice qu'il pèse très lourd dans ma balance, jour de Qiyam, continue à faire ce doigt plusieurs jours pour que ton cœur reste attaché à l'action que tu viens de faire. C'est pas que tu as fait le sacrifice à distribuer la viande et tu passes à autre chose. Non, c'est une action noble, c'est précieux. Et il faut que la valeur de cette bonne action reste dans notre cœur. Donc, on peut faire ce doua, demander à Allah, et Allah te le donne, bien sûr, Allah te le donne. Mais le fait de le dire, de le répéter, ton cœur se remplit de joie et de contentement d'avoir obéi à Allah, Rabbul Izzah. Qu'Allah nous accorde ses qualités. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil izzati.